Suivez Radio Intégration sur Facebook, X, Instagram,
YouTube.
Les héros nous apportent l'espoir, le rêve, la force. Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l'enfant pour se construire, l'adulte pour se réparer. La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. Leur épopée me raconte qu'il est possible de s'élever au-dessus de la fadeur des jours et du malheur de vivre. Nos héros nous montrent le chemin tous les jours, espace 21h15, 22h, sur le plateau de Radio Intégration.
Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Les héros africains. Vous nous suivez sur www.radiointégration.com ou alors sur notre site Radio Intégration. Et vous faites bien de rester en notre compagnie. Nous allons parler de la traversée de la Sanaga par le peuple Ekan, mythe ou réalité. Pour cette soirée, nous allons tour à tour écouter M. Bingono Bingono, anthropologue et patriarche, enseignant de cultures et civilisations dans nos universités. Après l'avoir écouté, nous allons suivre le Zomloi Essama Minkulu, patriarche et délégué départemental au ministère du Commerce. Et pour finir, nous écouterons aussi les contestations et les avis de ceux qui pensent que ce ne sont que des fables. C'est ainsi qu'à cet effet, nous allons écouter l'avis de M. Christophe Mbida Mindié, archéologue et anthropologue, actuellement chef du département d'archéologie à l'université de Yaoundé 1, ancien directeur du patrimoine national au ministère de la Culture au Cameroun, et aussi expert de l'UNESCO. Cette émission s'adresse à tous les mordus de la culture et aux férus du patrimoine culturel africain. Madame, monsieur, vous êtes servi ce soir, prenez place, asseyez-vous confortablement. Au micro de la présentation, je suis Marie-Noël Etungu. Et bien calé à la cabine technique, vous avez Monsieur Josué Nabral qui vous fait un clin d'œil. Je vous retrouve tout à l'heure.
Ma musique est un disque dur, yeah. Il faut tuer hardcore, taillé sur mesure.
bangatola ye. Yotonwa bangatola ya. Yotonwa bangatola ya. Yotonwa bangatola ya. Yotonwa bangatola ye. Yotonwa bangatola ya. Yotonwa bangatola yo. Yotonwa bangatola ya.
La néo-technologie fait ses effets.
Ça vient du Cameroun.
Impérator. Impératorise-moi le sang.
Je ne vois pas toi là, yé. Je ne vois pas toi là, yé. Je ne vois pas toi là, yé.
De retour sur ce studio, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous rappelons que vous êtes sur www.radiointégration.com dans le cadre de son émission « Les héros africains ». La communauté Béti est l'un des plus grands groupes ethniques que compte le Cameroun. Installée dans les régions du centre-sud et une partie de l'est du Cameroun, ces populations ont à la base une histoire commune, celle de la traversée du fleuve de la Sanaga. Today, nous allons vous faire découvrir cette histoire qui est transmise de génération en génération. Lorsqu'on parle des Béti, on ne peut pas oublier de mentionner le nom de celui-là même qui est à l'origine de ce groupement Nanga. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de Béti Benanga, leur ancêtre commun qui était albinos. Il a eu 7 enfants parmi lesquels Kolo Béti, Etoun Béti, Mvele Béti, Mvan Béti, Mka Béti, les Maka et Boulou la fille, Ntoumou le dernier-né. Or, Boulou la fille de Nanga a eu des enfants, mais la paternité n'aurait jamais vraiment été déterminée. Certains pensent qu'elle aurait eu une relation incestueuse avec son frère Ntoumou, d'où leur rapprochement. Un avis pas du tout partagé par certains qui estiment que c'est à cause des migrations que les enfants de Boulou se sont rapprochés de Ntoumou. Pour la petite histoire, au XVIIIe siècle, Ousmane Danfodio, un chef musulman, décide de convertir les peuples animistes à l'islam. Après un long voyage depuis la Damawa jusqu'à la forêt équatoriale, il arrive sur les terres de Béti Benanga.
Thank you.
suivez les héros africains sur www.radiointégration.com. Les Bétis ne pouvant pas affronter leur redoutable armée des Fulbé, qui était composée de plusieurs guerriers, la seule chose à faire à cet instant était de prendre la fuite. Pour échapper à leurs poursuivants, il était question pour eux de traverser le fleuve Sanaga. De l'histoire du peuple Béti, plusieurs versions sont partagées avec chacune des détails plus ou moins concordants. Des éléments qui peuvent prêter à confusion d'une part, mais possèdent une grande partie de la vérité d'autre part. Pour le Zomloa et Samaminkulu, la traversée mystérieuse de la Sanaga, encore appelée Medamyom par les peuples qui sont passés par une voie quasi mystique, une issue inconnue pour continuer à vivre jusqu'à nos jours. Durant cette traversée, il y eut une nuit de grâce au cours de laquelle un tondombe, qui signifie Dieu, a permis à nos ancêtres de traverser le fleuve. De là cette convocation ancestrale. Laquelle voudrait établir le lien de paix et de réconciliation entre ceux qui sont restés de l'autre côté de la rive et ceux qui ont traversé, sans oublier ceux qui ont été noyés dans les eaux du Yom. Madame Yom est devenue une nuit qui s'intercalera entre deux jours chaque dernière semaine du mois de février et s'achèvera par des sacrifices. À présent, nous allons parler du rôle des musulmans dans cette traversée. En effet, un de leurs guides étant à l'origine de cet événement, ils viennent aussi implorer le pardon pour les actes commis par un de leurs. De ceci, le peuple bétiste sacrifiera au même rituel pour avoir heurté la passerelle mystérieuse, causant ainsi la perte de ceux des leurs qui n'avaient pas encore traversé. Et cette passerelle mystérieuse ne s'appelle que Ngamza, qui était le serpent que l'on avait érigé et qui a rendu cette traversée possible. Pour certains, et empêchant la traversée pour d'autres, du moins pour ceux qui n'avaient pas encore traversé, sans oublier la mort par noyade de ceux qui étaient en train de le faire. À ce sujet, nous allons écouter M. Bingono Bingono, anthropologue et patriarche, enseignant de culture et civilisation dans nos universités.
Gangmaja fait partie de... Gangmaja fait partie des mythes de la traversée de la Sanaga par le peuple Ekan. C'est quoi le mythe? Le mythe est un récit fondateur qui raconte, qui rapporte les choses qui se sont passées dans des temps immémoriaux. Ce qui raconte les mythes, ce qui va devenir mythe, sont des témoins ayant vécu une scène. Elle devient mythe avec la distance due au temps et l'entrée dans la science. Alors, Gangmaja, au plan étymologique, signifie le mystère de la traversée. Gang, c'est le mystère, la magie, le miracle. Maja, c'est le verbe dans. Maja, madanja. Nja, c'est ce pont rudimentaire, ce tronc de bois qui est lancé sur les deux berges d'une rivière et qui permet de traverser. Gangmaja signifie par conséquent le mystère de la traversée. Dans le processus migratoire de la communauté qui va devenir les Ekans, il y a eu de très nombreux obstacles au moment où ils partent des bords du Nil, là-bas vers l'Éthiopie. L'obstacle majeur va donc être la traversée d'un fleuve large de pratiquement 1000 mètres. Il va y avoir trois options. Des groupes vont suivre l'aval du fleuve, pour aller traverser à un lieu de chute. Les chutes, on sait que des pierres émergent au-dessus de l'eau. Et quand elles émergent comme ça au-dessus de l'eau, les gens traversent de façon athlétique. D'autres personnes vont sur l'amont du fleuve pour aller chercher un endroit où le fleuve est si rétréci qu'on peut fabriquer des simples radeaux et traverser. Et le Ngamja, le mystère de la traversée sur le dos d'un serpent géant, d'un python géant, est quelque chose d'effectif dans la mesure où nous sommes alors à l'époque de la pré-science, où les initiés sont en communion, en osmose, en communication, en connexion presque permanente, à temps opportun, avec les entités élémentales que sont les ancêtres, c'est-à-dire les morts, les génies et les esprits. Il y a donc cet ancêtre, ce patriarche-là, qui va fondre au fond des eaux pour se muer avec le génie, l'un des génies qui y réside et qui est tutélaire, c'est-à-dire protecteur du peuple, et quand depuis qu'ils avaient, ils étaient partis des bords du Nil. Eh bien, le python géant va donc se mettre en travers de la Sanaga, formant une espèce de pont. Et les populations y ont traversé peut-être pendant des centaines d'années. Ça n'a pas duré une seule fois, ça ne s'est pas passé en une seule occasion. Il faisait donc émerger du fond des eaux ce génie-là qui prenait pour le cas d'espèce la forme d'un pont. Et c'est à la nuit tombée que les gens traversaient, jusqu'au moment où il va y avoir un accident, soit une lance piquée sur le dos du serpent, soit du feu qu'on y avait jeté, et le serpent s'est enfoncé au fond des eaux. C'est comme ça qu'on a su que ce pont n'était pas vraiment un pont, mais un être vivant. Voilà. Le Ngamja, qui est encore effectif, opérationnel jusqu'à nos jours, parce que c'est un génie, il ne meurt pas, prend la forme opportune dont on a besoin pour le moment. Et c'est le génie protecteur de tous les écans. On peut toujours lui faire appel, même maintenant. Et j'ai dans mes enquêtes et mes recherches de nombreuses preuves qui désignent qu'il est encore là. Et on peut lui faire appel si le peuple était confronté à un problème très grave. Bingolo, bingolo.
Place est maintenant donnée aux hommes loi et Samami Koulou, patriarche et délégué au ministère du Commerce.
Bonsoir, monsieur Sama. Qu'est-ce que vous pensez de la traversée du peuple Ekan, la traversée de la Sanaga par le peuple Ekan? Nous écoutons.
Alors, le petit, depuis fort longtemps, est l'un des peuples monothéistes et a été depuis ses origines à la vallée du Nil. Par ce fait, il est essentiellement aussi croyant, mystérieux, adorant et élevant ses prières vers Ntondobe, le Dieu créateur. Et à chaque fois, et même actuellement, lorsque un événement arrive à un petit, surtout que lorsqu'il est face à un dilemme, il s'adresse à Ntondobe. Et de sa manière, il y a des étapes. La première étape, c'est de montrer à cet Ntondobe tous ses bienfaits. Déjà à partir du fait que il a été créé par lui. Le deuxième fait, c'est que il remercie toujours Dieu parce que il lui a fait partir de là où il y avait déjà une première pression au niveau de la vallée du Nil. Pendant que tous les peuples s'étaient décidés de se disperser, le petit a traversé la première étape dure, c'est de traverser le désert du Sahara. Alors qu'il y avait suffisamment au niveau de la vallée du Nil. Le petit s'est retrouvé dans le désert, étant démuni. Et c'est pour cela qu'il y a eu une première tentative d'aller vers l'ouest pour venir vers la Damawa. Maintenant, une autre très grande difficulté se présente. À qui d'autre partir? Il faut aller vers Dieu, vers Ntondobe. C'est pour cela que il présente d'abord ses remerciements. Il glorifie Dieu parce qu'il est un être bienfaisant, plein de bonheur et de grâce. Après ça, le petit va reconnaître ses péchés.
Suivez les héros africains sur www.radiointégration.com. Après avoir écouté ceux qui pensent que la traversée a été effective, nous allons maintenant nous retourner vers les contestations de ceux qui pensent que la traversée n'est qu'une fable. À cet effet, nous allons écouter M. Christophe Mbidamintier, archéologue et anthropologue, chef du département d'archéologie et d'anthropologie à l'Université de Yaoundé 1, ancien directeur du patrimoine national au ministère de la Culture et expert à l'UNESCO.
J'aimerais d'abord dire que la légende ou le mythe du Ngame Dia, comme cela se dit, c'est un mythe, le mythe de la traversée de la Sanaga par les Ekans, les Beti, Bouloufan et communauté assimilée. Il faut savoir que un mythe, une légende n'est pas un fait historique. C'est certainement une légende qui s'inspire peut-être de la réalité, mais pour nous des sciences historiques, il ne s'agit pas d'un fait, c'est-à-dire d'un fait réel qui s'est passé tel que c'est relaté dans le mythe. Mais par contre, ce que l'on peut dire des réalités et ce que la science peut nous dire aujourd'hui par rapport à ce mythe, c'est que Zekan, Betiboulou et autres sont des Bantous. Et nous savons, et ça c'est un fait historique, que les Bantous, il y a 6000 ans, c'est-à-dire 4e, 5e millénaire avant Jésus-Christ, ont amorcé un mouvement de migration qui est parti de la région des confins de la Bénoué jusqu'au nord-ouest de cette région-là et ont migré vers l'Afrique orientale et l'Afrique australe en prenant beaucoup de plusieurs couloirs. Donc, la réalité donc de la migration des Ekan peut s'insérer dans cette mouvance-là. Vous savez, il y a 6 millénaires, les groupes bantous ont migré jusqu'à coloniser toute l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est une réalité historique. Mais maintenant, ce que le mythe ne situe pas, c'est la chronologie, par exemple, des Ekan lorsqu'ils traversent la Sanaga. Ce que nous savons, cela a dû certainement se passer entre la période initiale des mouvements bantous et l'époque récente. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon avis, c'est les migrations qui ont été dans la phase finale des migrations bantous, parce que les Ekan vont être arrêtés dans leur migration par les colons, par l'arrivée de la colonie. Et d'après les traditions orales, c'est l'arrivée de la colonisation qui va finir par les fixer. Ce qu'on sait également, c'est que les populations aujourd'hui qu'on appelle les Betis et autres, ce qu'on sait, c'est que c'est des populations qui étaient installées avant dans la rive droite de la Sanaga. Et lorsqu'elles migrent vers la rive gauche, c'est-à-dire la zone qu'ils peuplent aujourd'hui, ils ont certainement trouvé d'autres populations. Parce que d'après les traditions, les Ewondo Beti parlaient une autre langue qui est certainement l'ati et qu'ils ont perdu aujourd'hui. Et lorsqu'ils arrivent dans leur zone d'installation aujourd'hui, ils ont certainement trouvé des populations et c'est ces mélanges-là qui ont abouti au continuum Beti Bouloufan et autres qui parlent qui se sont mélangés à ces premiers habitants. Et qui parle, ce qui explique certainement la variété de langues que nous retrouvons. Bon, des incertitudes restent quant à la chronologie, mais mon avis est que c'est une migration qui s'est passée dans les dernières phases de migration bantoue. Et il faut savoir que les migrations bantoues se sont faites par vagues et qu'il y a eu certainement des mouvements aller et retour. Donc ce n'est pas un mouvement continue, c'est un mouvement qui s'est fait par vagues avec des migrations, des allées et retours avec des mélanges. Donc, la réalité du mythe est que, effectivement, les populations et quand Betiboulou étaient installées au départ dans la rive droite, qu'ils ont migré vers la rive gauche. Et ce que l'archéologie nous montre aujourd'hui,
oui,
c'est que ces populations bantoues maîtrisaient un certain nombre de techniques. Ils étaient des agriculteurs et ils maîtrisaient également la technologie du fer. Et c'est cette technologie du fer, certainement, qu'ils ont maîtrisée autour des deux derniers millénaires avant Jésus-Christ jusqu'à la période chrétienne. Ça, c'est ce que l'histoire nous apprend aujourd'hui. Maintenant, est-ce que toutes les populations et quand ont traversé la Sanaga à un seul endroit? ça, je me doute, ils ne sont certainement pas, ils n'ont pas traversé la Sanaga à un seul endroit. Il a dû avoir beaucoup d'endroits qui leur ont permis de regagner la rive gauche. Ce qu'il faut certainement clarifier, et l'archéologie est en train de le faire, c'est la chronologie de tous ces événements. J'espère avoir donné quelques éléments de réponse à ta préoccupation sur le plan archéologique, anthropologique et des traditions historiques, traditions orales. Merci.
Rappelle-moi dans 30 minutes, hein, s'il te plaît. Attends,
non, c'est bien.
Non,
tu es gracieux. Arrête ton baratin. Maintenant, là.
Oui,
c'est ça.
C'est ça.
nous avions réservé pour vous ce soir, chers auditeurs. Vos critiques et félicitations sont entendues sur le site de Radio Intégration ou sur www.radiointégration.com. À la technique, il y avait M. Meva Mougoujan-René, M. Josué Nabral et au micro, j'étais Marie-Noël Etungu. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Les héros.